on poursuit avec en troisième comme troisième intervenant avec Rodney Saint-Éloi qui est poète, éditeur. Attendez que je retrouve mes notes. Est-ce que c'est moi? Rodney, où est-ce que. Voilà. Par note alphabétique. Rodney Saint-Éloi. Qui est né à Cavaillon, en Haïti, mais qui vit à Montréal, évidemment. Dans le moment, il est écrivain, éditeur, universitaire. Il a fondé à Port-au-Prince des éditions Mémoire, qui publie des écrivains haïtiens vivant tant à l'intérieur que hors de leur pays. La maison publie essentiellement l'œuvre de jeunes auteurs qu'elle cherche ainsi à faire connaître. René Saint-Éloi commence à écrire dès l'âge de 13 ans. Il publie une dizaine de recueils de poèmes, des essais sur la littérature et la peinture. Certains de ses ouvrages sont traduits, entre autres en anglais, en espagnol, en japonais. Il est à Montréal depuis le début du 21e siècle, où il a fondé la maison d'édition Mémoire d'Ancrier, qui publie des œuvres d'auteurs de diverses communautés culturelles, africaines, caraïbes, océans indiens, et cette semaine, même amérindiens, c'est le premier titre, je crois, de ta collection, avec un auteur amérindien. Rodney va nous parler des liens entre la poésie haïtienne et le surréalisme. Plusieurs de ces poètes ont d'ailleurs fait des passages par Montréal, mais il va vous en entretenir sûrement mieux que moi. Donc, la parole est à Rodney Saint-Éloi.
Merci, Claude. En fait, le titre de mon exposé, c'est « Le surréalisme est l'arme miraculeuse du pauvre ». Je ne savais pas, j'étais très, très paresseux quand on m'a dit de donner un titre. Donc, et puis j'avais l'âme miraculeuse, j'avais un vers, un fragment de Césaire, Aimé Césaire, l'âme miraculeuse, et puis j'ai fait un petit collage. Donc, le surréalisme, c'est l'âme miraculeuse du pauvre. Pourquoi un tel titre? Je me disais donc comment vous parler de surréalisme quand je parle d'Haïti, quand je parle d'un pays vaudou, dans une culture qui fait de l'irrationnel un choix irréversible et inévitable, dans un pays rebelle à tout. Et même au surréalisme, à toute forme de soumission, rebelle à toute forme de soumission. Il y a dans le mot surréalisme un cri qui recoupe le cri d'Haïti, un cri de désir absolu, une fin du monde si intense, si grandiloquente, que le surréaliste est devenu l'âme miraculeuse du pauvre. Le détour, l'automatisme, l'insolite, cette confusion entre rêve et réalité, ce chevauchement entre vie et mort, ce réalisme merveilleux, cette errance entre pays rêvé et pays réel, entre les lieux d'origine et les lieux d'exil, cette mégalomanie active, comme la mer toujours recommencée, tout cela ne se manifeste pas seulement dans le discours poétique, mais aussi tout cela est ancrage à une réalité, à un lieu bien précis. Donc, de Magloire Saint-Aude à Franck Étienne, sont des auteurs haïtiens, passant par d'autres auteurs, des auteurs du mouvement Haïti littéraire, qui ont pratiquement tous séjourné ici à Montréal, de sorte qu'on pourrait dire c'est Montréal littéraire aussi. Donc, d'Avertige, Anthony Phelps, Roland Morisseau, Serge Le Gagneur, René Philoctète. Le surréalisme a été un marqueur poétique. Ce texte propose donc ce voyage, et à travers cette poétique, qui est aussi une éthique, cette manière ordinaire de se révolter. Donc, de la peinture naïve haïtienne au culte, à la célébration du culte du vaudou et de l'écrit, parlons de cette relation complexe. Partons en quête de ces recoupements bizarres qui font de l'art en Haïti un domaine où règne de manière absolue le paradoxe. Donc, parlons d'Haïti. J'aimerais bien commencer par vous parler d'Haïti parce qu'en fait, la matière surréaliste, en fait, l'objet même du discours, c'est d'abord un pays, c'est pas des écrivains, c'est d'abord un pays qui était dans sa matérialité même surréaliste, c'est-à-dire au-delà de la manifestation de la surface du réel. Donc, je ne vous dirai pas les mensonges faits pour touristes comme Haïti, c'est le plus bel pays, Haïti est le pays le plus merveilleux du monde. Je ne vous dirai pas non plus que les morts sortent des cimetières le soir, que les morts marchent la nuit sur la ville et ses 27 000 km² d'étincelles et de fulgurances. Et je ne vous dirai pas non plus quand ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, personne ne sait quoi est la réalité. Et qu'il y a des rues qui s'appellent rue des miracles, qu'il y a des cimetières qui s'appellent, qu'il y a des rues qui s'appellent rue des miracles, et que personne n'est jamais mort dans ce pays de mort naturelle, et qu'il y a des cimetières qui s'appellent route de l'espoir. Je laisserai tout cela au compteur de Bonaventure. Je vous dirai simplement, Haïti est une terre vaudou. Haïti est une terre qui détourne tout de son sens premier, de ses cris premiers, de ses évidences même. Haïti, comme disait Césaire, là où la négritude se mit debout pour la première fois. Haïti, le paradoxe extrême de la vie. Haïti, le carreau qui à défaut fonctionne. Haïti, 8 millions de zombies, 8 millions d'étoiles filantes. Haïti, 8 millions de dictateurs, 8 millions de rêves atroces. Je vous parle d'un lieu paradoxe, d'un lieu fantôme, de la négraille fatiguée par 2 siècles d'esclavage, de la négraille debout comme par habitude. L'essayiste Christophe Warning, en parlant d'Haïti, nous dit dans son livre qui a été publié en 2004, « Haïti n'existe pas », c'est le titre de son livre. Et le romancier Gary Victor, qui lui est haïtien, nous dit, écrit un roman pour parler bien d'Haïti, très très bien parlé, et ce roman s'appelle « À l'angle des rues parallèles ». Et c'est étonnant, les gens y croient qu'on peut avoir l'angle des rues parallèles. Ok, permettez que je lise un texte toujours dans, pour défendre ce qui est à mon point de vue, qu'il n'y a pas qu'un mouvement littéraire surréaliste, mais il y a un pays qui a un fond surréaliste et qui est là. Donc en 2001 à Tunis, j'ai présenté ainsi Haïti dans un texte qui s'appelait la francophonie excentrée. Donc je disais, les géographes et surtout mon ami québécois Jean Morissette me feraient sûrement la curieuse leçon, à savoir qu'une île est une terre enclavée entre les mers. Mais moi, je garderai mon entêtement en disant avec ce air de jeune homme révolté, c'était 2001, qu'une île, mon île, est une dérive et rien que cette dérive-là. Mais là, en 2001, c'était en juin, je vivais en Haïti et en juillet, j'allais être à Montréal. Et là, je suis à Port-au-Prince, dans une rue qui s'appelle Boulevard X et qui pourtant n'est qu'une impasse. Et je danse une musique d'un mini-jazz qui s'appelle Trio Selec et qui pourtant a 12 musiciens. Okay. Je suis avec des amis haïtiens, en partant, ils me disent « Map vini ». Je viens, puis ils s'en vont et ne reviennent plus. Je vis écrit dans cet espace ambivalent où l'espace du réel, l'espace de la fiction s'emboîtent. Je vis et écris chez moi, dans ce écartèlement de moi à l'autre, du mot à la chose, et j'expérimente, chemin faisant, ces zones où moi-même, à chaque carrefour, je glisse comme le pays. Donc il y a un proverbe qui dit « Haïti, c'était glisser ». Je vis et j'écris dans la violence de la misère, dans l'arrogance crasse de la bêtise et dans le totalitarisme le plus abject. Et c'est là que paradoxalement, je cherche un sens à mes mots et à ma vie. Encore dans cette même rue de Port-au-Prince, je vois des tap-tap bariolés aux couleurs étranges avec toutes sortes de proverbes « de jour à vivre ». Depuis dans Guinée, nègre trahit nègre, depuis la Guinée, les nègres se trahissent, la vie drôle. Tous les murs de la communauté deviennent un véritable palimpseste où s'active le discours social. Je suis face à toute cette tentation graphique dans un pays à 90% d'analphabètes. Je suis encore là écoutant patiemment un troubadour dans un restaurant avec sa guitare qui chante dans la langue francophone à Crocolis, à Dié, l'amour s'en va sur cette terre. Je répète de façon zigzaguée des fragments de réalité. Je module un puzzle. Je joue en apprenant que l'écriture est un jeu sacrificiel, ou en jouant, je perds une part de moi-même, ou en jouant, si je joue bien, je suis au-delà de l'intentionnalité. Je suis en face de la vie, c'est-à-dire de la mort. Dans ce jeu visuel, dans ces rues et sur ces murs, dans ces entrelacs de mystère et dans ces étranges affichages qui disent « Bérénice, charcuterie », Collège Adolf Hitler, ou encore cet affichage d'une maison de 3 pièces. C'est un petit appartement et on lit ce qui suit. Kindergarten, primaire, secondaire, adultère, T-A-I-R-E. Point. Bon. Maintenant, je vais vous parler de ce qui nous rassemble ici, c'est le cyclone breton. En fait, c'est un breton, André Breton, a été en Haïti, l'effet d'André Breton en Haïti, ça a été pratiquement un cyclone. Parce que jusque-là, Haïti était dans une sorte de léthargie, en sortant à peine de la première occupation américaine, 1915-1934, et qui a mis le pays, les élites, la paysannerie, la classe moyenne, tout le monde à genoux, même les arbres. Les Américains ont coupé tous les arbres, etc. Donc, tout ça. Donc, c'est un pays pratiquement à sac. C'est après cette gifle des Marines américains, qu'un merveilleux volcan allait irriguer toutes les énergies, le cyclone Breton. J'aimerais, en fait, en référence à Mallarmé, reprendre le titre d'un texte de Milan Kundera qui parlait des séjours d'André Breton dans les Antilles, juste en Martinique et en Haïti. Et Milan Kundera parlait de beau comme une rencontre multiple. Et donc Breton sera l'étincelle qui allumera les flammes de l'insoumission. C'est une histoire qui ressemble à un conte de fées. Donc, mais avant de venir à Breton, donc il faudrait bien, pour situer la question littéraire, s'arrêter au début du siècle à un livre majeur qui s'appelle « Ainsi parle la langue » qui a été écrit par Jean Pressemars. « Ainsi parle la langue » de Jean Pressemars pose la question de l'aliénation, qui est une question proprement à toute culture francophone excentrée. C'est-à-dire, en fait, le français, la langue, la culture, la civilisation, c'est la France, et un refus catégorique de tout ce qui est africain, du noir, donc de soi. Donc le refus de soi et la fascination de l'autre. Et Jean Pressemars écrit « Ainsi par la langue », justement, qui est le plus célèbre essai haïtien pour parler de l'appropriation de l'imaginaire populaire qui est dans le vaudou, qui est dans le folklore haïtien. Donc Jean Pressemars voulait relever la valeur du folklore aux yeux des Haïtiens. Donc il recommande aux écrivains d'aller puiser leur inspiration dans les légendes et les contes populaires. Jean Pressemars disait une petite phrase intéressante qui est toujours reprise, un petit peu, cette phrase est toujours reprise dès qu'on parle de Pressemars. L'homme le plus distingué de ce pays en parlant d'Haïti aimerait mieux qu'on lui trouve quelques ressemblances avec un Esquimau, un Samoyed ou un Tangouze plutôt que de lui rappeler son ascendance guinéenne ou soudanaise. Donc là, on est complètement dans la haine de soi. Donc on était en 1928. Donc dans les années 20, dans les années 30, le paysage littéraire est dominé par un certain nombre d'écrivains d'une grande vitalité, mais qui sont en fait à la suite de la pensée de l'oncle Jean Pressemars. Et Jean Pressemars, et on aura des écrivains de la Revue Indigène. La Revue Indigène a été formée en fait d'abord par Jacques Roumain, qui est un écrivain que l'on connaît assurément ici. Donc c'est l'auteur du terrible livre, le roman haïtien le plus célèbre, Gouverneur de la Rosée. Donc il y avait de jeunes bourgeois contestataires, comme Jacques Roumain, comme Philippe Toby Marcelin, comme Carl Bois, comme Émile Roumer, Antonio Vieux, tous fils de gens assez aisés, de familles assez respectables, comme on dit en Haïti, et qui ont fait une revue qui s'appelle la Revue Indigène et qui se situe dans la même quête de Pressemars. Et la Revue Indigène sera suivie d'une autre revue qui s'appelle l'École des Griots, la Revue des Griots. Donc tout ça, on voit le côté retour à l'Afrique. Tout ça, on relève deux démarches distinctes, mais convergentes. Celle littéraire, avec les fondateurs de revues, la Revue Indigène, et puis celle ethnographique, plus la visée anthropologique de Pressemars, c'est qu'on va retrouver avec l'École des Griots. Mais André Breton arrive et puis cesse la récréation, c'est-à-dire la question raciale, la question de l'Afrique. C'est-à-dire qu'avec André Breton, ils vont poser la question de la liberté, une question beaucoup plus humaine, qui est une question de révolution. Quelles sont les structures qui sont en fait des structures étatiques assez délabrées. André Breton arrive en Haïti le 4 décembre 1945 à l'invitation de son ami Pierre Mabille, qui est attaché culturel de l'ambassade de France en Haïti. Et ce qui est étonnant, c'est que dès le 1er octobre, et le quotidien Le Soir annonce la nouvelle, le surréaliste Papa au Prince, prochaine visite de André Breton. Et permettez-moi de lire quelques, articles de journal célébrant la venue de Breton en Haïti. Le surréalisme, je lis simplement les titres parce qu'il y en a tellement. Le surréalisme à Port-au-Prince, prochaine visite de André Breton. L'arrivée de Breton, des suggestions faites à notre journal. L'arrivée de Breton, quelques renseignements à ce sujet. Bienvenue à André Breton. Et puis ensuite, monsieur, madame André Breton à Port-au-Prince. Breton parle jeudi, etc. En écoutant André Breton, etc. Donc il y a eu tous les journaux ne parlaient que d'André Breton. Donc, c'était vraiment un pape qui a débarqué en Haïti. Donc, on est... Et je vais vous lire aussi le programme de conférence. Et vous allez voir, parce qu'il était venu, pour travailler. Donc, le programme de conférence d'André Breton, qui a été publié en janvier 1946 dans un autre journal. Conférence de André Breton, le mardi 8 janvier à 8h du soir à la faculté de droit, poésie, sources étrangères et occultes du romantisme français, Victor Hugo méconnu. Le vendredi 11 janvier à 8h du soir à la faculté de droit, peinture, deux grands précurseurs de la peinture moderne, Georges Seurat, Henri Rousseau le douanier. Le mardi 15 janvier à 8h du soir à la faculté de droit, trois œuvres romantiques de grande percussion, Aloïs Bertrand, Petrus Borel, Gérard de Nerval, Situation de Baudelaire. Vendredi 18 janvier à 8h du soir à la faculté de droit, l'organisation de la sensation, Henri Matisse, révolution provoquée par la découverte de l'art primitif, Afrique, Océanie, Amérique, la grande aventure plastique par Pablo Picasso. Pour les autres causeries, les dates et les heures sont annoncées ultérieurement. 5. Évolution du concept de liberté à travers le romantisme, les penseurs sociaux du romantisme, Henri de Saint-Simon, le père enfantin, Charles Fourier, libération et liberté. 6. En marge du cubisme, abstractivisme, futurisme, mouvement dada, 2. Isolé, Marc Chagall, Paul Klee. 7. Mallarmé, Rimbaud. 8. Les prix surréalistes, Georges de Chiricot, Marcel Duchamp, première vague surréaliste dans l'art, 1921-1929, Max Ed, André Masson, Jean Miro, et Juan Miro, Man Ray, Yves Tanguay, Jean Hopp. Et 9. Les nouveaux frissons intellectuels et l'esprit moderne, Lautréamont, Alfred Jarry, Guillaume Apollinaire. 10. Seconde vague surréaliste, 1929-1946, René Magritte, Salvador Dali, Alberto Giacometti, Victor Bonheur, Wilfrido Lam, Matta, etc. 11. Le surréalisme et la poésie. Toutes ces causeries sont suivies de lectures ou illustrées de projections. Haïti Journal, 4 janvier 1946. Donc le programme est terrible. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, Breton est arrivé, et puis Breton, la conférence est annoncée, et au Rex Théâtre. Et au Rex Théâtre, c'est le plus grand, c'était l'espace le plus prestigieux, la salle la plus prestigieuse en Haïti. Et donc, Breton est là pour sa conférence. Et qui a annoncé sa venue à la conférence? C'était le président Élie Lescot. Donc, comme le président vient, et c'est un pays d'aliénés, donc tous les ministres viennent aussi. Donc, ça devient, en fait, la conférence de Breton, qui est une manifestation de l'insoumission la plus totale, est devenue en fait quelque chose de très... Même pas, c'est pas parce qu'ils voulaient récupérer qu'ils sont là. Ils sont là tout simplement parce que le Rex est en face, pratiquement en face du Palais National, où sont les appartements du président. Et le président peut-être s'ennuyait en disant pourquoi ne pas aller écouter un petit Français qui est venu ici, etc. Parce que d'habitude, les Français venaient pour parler de la latinité du français, des rapports entre tropiques et la France, etc. Donc, la politique de bon voisinage. Et il se trouve que Breton, c'était l'occasion pour André Breton de montrer de manière très pragmatique et de manière très opérationnelle, en fait, le côté insoumis du surréalisme. D'habitude, quand il y a un président haïtien dans un lieu en Haïti, en fait, le conférencier commence par dire l'honorable président ou dictateur de la République, comme il veut, comme il entend. Et Breton, bien entendu, Breton, avec son arrogance surréalisante, il n'a même pas regardé du côté du président. Et en sortant après sa conférence, et puis je pense que la présence même de tout le gouvernement a un petit peu excité André Breton, qui jouait de la provocation, vraiment provocation, en demandant aux poètes, aux artistes, de libérer toutes les forces révolutionnaires afin de vaincre les forces d'oppression, etc. Et puis en regardant la direction de tout le gouvernement. Donc c'était. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? Et puis en sortant, il est sorti tout droit avec les poètes. Il n'a même pas regardé du côté du président, ce qui était une insulte, l'insulte capitale pour le président de la République et toute son équipe. Et il y avait une revue de l'époque, qui est une revue de jeunes bourgeois et marxistes, marxisants et surréalisants, comme avec René Dépèce, Gérald Blancourt. Et cette revue, La Ruche, a décidé de faire, un numéro spécial pour la visite de André Breton. Donc cette revue a été, et une fois sortie, et cette revue a été interdite par le gouvernement. Donc il y a eu des mouvements de, et puis donc il y a eu tout un mouvement politique qui a suivi la venue de Breton, et ce mouvement a débouché sur ce mouvement a fait en sorte que le président Élie Lescot a été chassé du pouvoir. Donc c'est peut-être le seul pays au monde où on dit mais comment tel président est tombé, pourquoi Élie Lescot, on dit mais c'est André Breton. André Breton est arrivé et Lescot. Donc c'est Lescot. Donc c'est il y a quelque chose de très pragmatique dans la venue de André Breton qui a été célébré comme quelque chose de, mais c'était pratiquement un prétexte et vous allez voir comment René Dépèce et expliquait cette rencontre de André Breton. Quel est le point de vue de René Dépèce, du poète René Dépèce? René Dépèce disait: nous voulions alors démystifier une société encore profondément tributaire d'un héritage colonial que la révolution haïtienne 1804 n'était pas parvenue à effacer de notre vie nationale. Nous éclairions notre jeune révolte avec des idées empruntées hâtivement à la poésie, au roman et aux rares textes marxistes qui parvenaient à nos mains dans le désert théorique où nous vivions, isolés et coupés de tout par la dictature du tyran Élie Lescot. Le 4 décembre 1945, la nouvelle de l'arrivée d'André Breton en Haïti fit flamber notre imagination. Notre enthousiasme était d'autant plus incandescent que le séjour parmi nous d'Aimé Césaire, quelques mois auparavant, nous avait préparé à recevoir le choc culturel d'André Breton. Donc voilà le nouveau paradigme qui allait être mis en place en Haïti, c'est-à-dire le rôle vraiment et toute une vision poétique qui a une vision pratiquement de l'action poétique. Et en disant si André Breton est venu, et puis André Breton il est venu, comme il est venu, Élie Lescot, le dictateur est parti, donc nous autres poètes, notre action, l'action poétique est d'abord une action politique. Et donc c'est dans ce sens-là que tous les poètes qui viennent après les années 40, vont essayer de recouper l'engagement éthique, l'engagement poétique avec l'engagement politique. Et c'est pourquoi dans le mouvement Haïti littéraire, on aura deux tendances. Il y aura deux tendances dans le mouvement Haïti littéraire. Il y aura, et ça je laisse la parole à Anthony Phelps qui nous parle des deux courants, l'engagement pas uniquement au niveau de la quotidienneté, mais à l'intérieur même de l'œuvre, on trouve cet engagement. En un certain engagement ici se place l'influence de Jacques Roumain, ses poèmes de combat, les poèmes de combat de Jacques Roumain, surtout Madrid, qui est un poème fabuleux. L'introduction du pays dans le roman, non plus de façon naïve, mais avec une présence dynamique. Ok, nous nous sommes mis à nommer nos villes, à nommer le pays, c'est Phelps qui parle. C'est ainsi que Port-au-Prince, Jérémie, la Grandance, Pétionville et certains noms de rues, la Fleur du Chêne, rue américaine, boulevard Truman, le quai Christophe Colomb et autres sont entrés par la grande porte dans notre poésie. L'engagement à l'intérieur de l'œuvre, la deuxième forme d'engagement, donc la tentation de faire une œuvre engagée, comme le dit Pablo Neruda dans J'avoue que j'ai vécu, c'est-à-dire en parlant de l'utilité publique de la poésie à une période critique. Ok. Mais il n'était pas question pourtant que le poème perde de sa qualité, etc. Donc, et ça c'est... Est-ce que j'ai beaucoup... Combien de temps qu'il reste? Je peux parler comme je veux? Comme un surréaliste.
Oui.
Donc, je vais parler comme un surréaliste. Donc ce qui est peut-être intéressant, c'est que même avant André Breton en Haïti, il y avait cette espèce de, je dirais, cet horizon surréaliste qui était déjà campé. Et André Breton, en fait, Aimé Césaire est passé bien avant André Breton. Et au niveau de la peinture, il y avait quelque chose de très surréalisant en même temps, parce que c'est un pays ségrégué, Haïti. Donc, il y avait, dans les années 40, il y avait le centre d'art, qui est l'un des phénomènes artistiques les plus puissants de ce XXe siècle. André Malraux a publié un livre, je pense que c'est L'Intemporel. Il a consacré tout un chapitre à ce mouvement d'art naïf, d'art primitif haïtien. Donc, c'est un Américain qui a fondé le Centre d'art. Et le Centre d'art a été fondé par David Peters, les peintres étaient divisés en sophistiqués et en primitifs. Les sophistiqués étaient tous paradoxalement clairs, habitaient tous à Pétionville, étaient tous de famille entre guillemets respectables, ils savaient tous lire, ils mangeaient 3-4 fois par jour, ils étaient tous même un petit peu obèses. Et puis ils dessinaient des pommes, des fruits, des femmes, ils imitaient un certain nombre de choses. Ils étaient à l'école. Et dans un sous-sol, en dessous, il y avait les primitifs. Les primitifs, souvent, c'était par exemple les chauffeurs des messieurs qui étaient là-haut, et des dames aussi, avec quelques dames. Et donc, c'était souvent les chauffeurs de David Peter, les chauffeurs de ces messieurs, ou bien ceux qui étaient les jardiniers de ces messieurs, qui s'amusaient à peindre en bas. Et quand il y avait une grande exposition à Cuba, et qui était pilotée par Wilfredo Lam, et Gomez Sicré, qui est un critique cubain, est arrivé en Haïti, et puis avec Wilfredo Lam, tout ça, et puis il voulait voir la peinture haïtienne, et naturellement, on est monté à l'étage pour voir la peinture. Ils étaient complètement déçus, ils disaient, mais montrez-moi quelque chose d'autre, avez-vous quelque chose? Et par hasard, ils sont tombés dans le sous-sol. Et c'est là qu'ils disent, mais voici la peinture qu'on est venu chercher. Et c'était ça la peinture. Et c'est comme ça que, grâce à ce regard percutant de Rufo de Lame et de Gomez Sicré, que la peinture naïve a été découverte avec des peintres comme Hector Hippolyte, Castra Basile, etc. Donc il y a eu un renversement, il y a eu vraiment dans la peinture une réappropriation du vaudou, du rêve et de cet automatisme que l'on trouvait, mais vraiment ceux, et paradoxalement, c'est ceux qui ne savaient pas du tout lire, c'est ceux qui ne savaient pas du tout ce que c'est qu'aller à l'école. Et c'était ces gens-là, c'était souvent des prêtres du vaudou, comme Hector Hippolyte, qui va devenir l'un des peintres, les plus grands peintres adorés par les surréalistes. Donc il faut dire aussi qu'il y avait, par exemple, Magloire Saint-Aude. Magloire Saint-Aude avait déjà pris la défense du surréalisme bien avant que Breton soit venu en Haïti. Excusez-moi. Donc je vais peut-être vous lire un texte que... Ok. Ah, Magloire Saint-Aude. Ok. Donc, je laisse tomber Magloire Saint-Aude. Et puis... Oui, conclure.
Ok. Pas conclure.
D'accord. Mais je vais vous passer. Je vais vous dire quelques. Je vais ouvrir. Ok. Il y a eu des. En fait, c'est vraiment un moment libératoire. Et on a de jeunes poètes qui vont vraiment oser. Je vais même vous donner les titres. Comme un poète comme Georges Castra qui va écrire Contribution à l'étude scientifique de l'orgasme. Donc, vous voyez, donc, c'est-à-dire dans un pays vraiment catholique, dans les années 50, et puis qu'est-ce qu'ils sont en train d'écrire ? Contribution à l'étude scientifique de l'orgasme. Donc, il y avait quelque chose de libéré. Et il y a des poètes comme Toby Marcelin qui vont dire qu'il faut tordre le cou à l'esthétique. Donc, il y avait vraiment une quête nouvelle. Et puis, il y avait Jacques-Stéphane Alexis, qui a pris le pseudo de Jacques Collère, qui va écrire « Lettre aux hommes vieux ». Donc, mais vraiment, conflit de génération, ces jeunes bourgeois, ces contestataires qui cherchent leur place et qui revendiquent mais vraiment une place et qui étaient vraiment de véritables révoltés. Il y a un poème que un des poètes d'Haïti littéraire qui a revendiqué l'héritage surréaliste et qui a été plus tard, qui allait être plus tard publié par Alain Bosquet à Paris, et pendant que Alain Bosquet dirigeait Séguéa, c'est d'Avertige Villardeny. Je me permets de vous lire un poème de Villardeny qui s'appelle Oma Barigor. Oma Barigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont ivres et portent leur printemps sur leurs tiges que les vents bâillonnent. Au milieu des forêts qui résonnent de nos sens, des arbres sont debout qui connaissent nos secrets. Toutes les portes s'ouvrent par la puissance de tes rêves. Chaque musicien a tes sens comme instrument. Et la nuit en collier autour de la danse, car nous amarrons les orages au bras des ordures de cuisine. La douleur tombe comme les murs de Jéricho. Les portes s'ouvrent par la seule puissance d'amour. Au Ma Barigor, où sonnent toutes les cloches de l'amour et de la vie, la carte s'éclaire comme ce visage que j'aime, de miroir recueillant les larmes du passé, et le peuple de l'aube assiégeant nos regards. Donc j'aimerais, avant de conclure, vous lire, en fait, parce que c'est un crime si je ne vous lis pas, un poème de Magloire Saint-Aude. Je suis en train de le chercher. Magloire Saint-Aude, ouais, c'est vraiment un surréaliste, là, il s'est sauvé. On va le retrouver. Magloire Saint-Aude, page 40. Et voilà. Voilà Magloire Saint-Aude qui, dans le 25 avril 1941, écrivait « Disque sur le surréalisme » pour défendre le surréalisme, c'est-à-dire c'est plus de quatre ans avant la venue d'André Breton en Haïti. Il appartient au commun d'accepter l'explicable. Être pour le vulgaire est une fonction de ruminant. Exister pour le poète est un étonnement. Le poète est l'homme de l'étrange. Il ne saurait se plier aux formules des foules ni rechercher la logique des phrases cadencées. Le poète descend dans les replis les plus ténébreux de l'inconscient. Dans ce monde merveilleux est la source des créations d'où surgissent les images sans lieu de l'impossible et de l'étonnement. Symboliste et surréaliste glorifie le subconscient et le rêve. Mallarmé était un maître du rêve. Saint Paul Roux disait « Nous sommes les colonisateurs de l'au-delà. » Et qui d'autre disait « Nous sommes infatigables jusque dans le sommeil. » Le symbolisme est une réaction contre le Parnasse et le naturalisme. Il libère les possibilités du monde intérieur. Le surréalisme rejette les mets essentiels et conformistes et n'assigne pas de limite aux horizons de l'esprit. Le surréalisme ne saurait trouver nulle sympathie chez les esprits superficiels. Il séduit les réfractaires, les baudelairiens, les non-assagis. Les exagérations du style auquel se sont livrés les snobs du surréalisme ne sauraient infirmer le rayonnement d'une école politique dont les maîtres sont vénérés par les disciples de toutes les races.